L'engagement dans ces tiers états, ça a pas mal commencé quand même, depuis hier, juste avant. Et quoi de mieux, de plus symbolique que de commencer ce débat avec les enfants sahraouis et Régine tout à l'heure qui nous dira deux mots avant d'enclencher le débat.
Bon, hein. Madame, monsieur, j'ai le plaisir de vous présenter un groupe des enfants sahraouis qui vient de passer la vacance ici, chez vous, chez le peuple français. Et il va présenter deux chansons sahraouis, des chansons sahraouis traditionnelles. Et je vais essayer de vous faire la traduction ou le contenu de chaque chanson. Bon. La première chanson, c'est concernant la paix. Elle a dit que les mains du peuple sahraoui sont tendues et pour la paix. Et il a patienté des années et des années aussi pour la paix. Il a dit aussi que le peuple sahraoui, comme les autres peuples, il a un pays, mais il est occupé par le Maroc. Ce pays occupe toujours l'esprit du peuple sahraoui. Et à la fin, la chanson, elle demande de tous les jeunes sahraouis de se unifier pour casser les murs de silence construits autour du conflit du Sahara occidental. Elle demande aussi aux jeunes sahraouis de lever le drapeau du Sahara occidental et de réaliser les rêves et d'avancer le plus loin possible pour libérer le pays occupé. Ça, c'est le contenu, le résumé de la première chanson. Voilà.
للسلام مدنا ليدين للسلام مدنا ليدين وعلى ذاك صبرنا سنين وعلى ذاك صبرنا سنين انا لي وطن كغيري دايما شاغل لبالي انا لي وطن كغيري دايما شاغل لبالي فبدوني مصيري يصبح كطيف في خيالي بدر النصر بايرقب فيا اللي صار ترقب هذا شوط اخير وصعب عسك لا تليال بدر النصر بايرقب فيا اللي صار ترقب هذا شوط اخير وصعب عسك لا تليال لا تطفي نارك سجد بافكارك صونع تيبار حقق الاحلام من دم نوكار كل الظلال واصلني دالك من اجل الحريه نصرك قدامك في تراب الساقيه واصلني دالك من اجل الحريه نصرك قدامك في تراب الساقية ويا شباب العهد يناديك أطريقك معبد الدم لا 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 تليالي جازيك عود انت من حمدي فم يا شباب حطموا الأحزاب يا شباب رفعوا الأعلام يا شباب حقوا الأحلام يا شباب زيدوا القدام زيدوا القدام ميرسي
la première chanson. La deuxième chanson, c'est concernant les manifestations qui se réalisent quotidiennement au territoire occupé et on l'appelle aussi l'antifada. Là où il y a le peuple sahraoui sur l'occupation au Maroc, sur l'autorité au Maroc, sur l'agression au Maroc, il fait toujours des manifestations pour demander la liberté, pour demander le droit de voter, pour demander l'indépendance. Et cette chanson, c'est concernant Bon, comme je t'ai dit, concernant les territoires occupés, pour affirmer l'application du droit à l'autodétermination inscrit dans la Charte des Nations Unies et auquel tout ancien peuple colonisé a droit.
انتفاضة الاستقلال انتفاضة الاستقلال عند الشعب بلا مثل عند الشعب بلا مثل ومينت حيدر وعلي سالم بطل ومينت حيدر وعلي سالم بطل عيني مشتاقة للأوطن عيني مشتاقة للأوطن وش قال اللي منها محتل وش قال اللي منها محتل لهي نرفع فيها الرايات نمشي ونجيها مستقل لهي نرفع فيها رايات نمشي ونجيها مستقل انتفاضة الاستقلال انتفاضة الاستقلال عند الشعب بلا مثل عند الشعب بلا مثل ومينت حيدر وعلي سالم بطل ومينت حيدر وعلي سالم بطل عيني مشتاقة للأوطن عيني مشتاقة للأوطن وش قال اللي منها محتل وش قال اللي منها محتل لهي نمشي فيها رايات نمشي ونجيها مستقل لهي نرفع فيها رايات ميرسي.
Alors, ces enfants-là, ils ont fait 6000 km pour venir, plus 40 km pour quitter la plage.
Oui, bien sûr.
C'est bien quand même, on peut les applaudir parce qu'ils ont quitté la plage.
Ah oui, bien sûr. Bon, il y a une fille qui veut lire... Bon, il y a une fille qui veut lire une lettre ouverte au peuple français. Et elle va commencer.
رسالة مفتوحة إلى الشعب الفرنسي. نحن مجموعة من الأطفال الصحراويين جئنا إلى هنا لكي نقضي عطلة الصيف في فرنسا.
Un groupe des enfants sahraouis qui est venu ici pour passer la vacance chez vous, chez le peuple français, pour jouer, chanter, se baigner, faire du vélo, constituer de nouvelles amitiés et pouvoir faire l'échange des idées avec les enfants.
لنكون صداقة جديدة مع أبنائكم ونتبادل معهم المعارف لقد تركنا أبائنا وأخوائنا وأخواتنا وشعبنا بأكمله في ظروف قاسية حيث الحرارة الرياح جئنا إليكم لننسى تلك الهموم ونشكر جزيل الشكر كل العائلات الفرنسية التي استقبلتنا وكذلك المشرفون على تنظيم الجولات وكذلك استقاء الشعب الصحراوي في فرنسا ونطلب منكم أنتم الحاضرون وتبلغوا القائمين أن تقفوا معنا جنبا إلى جنب وتساعد شعبنا من أجل الحرية والاستقلال.
Bon. Nous avons laissé là-bas au camp de réfugiés sahraoui nos parents, nos frères, nos sœurs. Et tout un peuple dans des hivers dans des sévères conditions, dans le désert où il y a les grandes tempêtes de sable, la chaleur qui dépasse 47 degrés. Nos militants dans les territoires occupés luttent contre l'agression marocaine, luttent pour la liberté. Et nous sommes maintenant ici pour oublier tous ces drames, pour oublier ces insupportables difficultés. Enfin, on remercie beaucoup, beaucoup toutes les familles françaises pour leur chaleureux accueil et aussi les responsables qui s'occupent de l'organisation de ces vacances. Et on vous demande d'être nos assistants et d'informer les absents pour que vous soyez avec nous afin de nous soutenir et d'aider notre peuple pour la liberté et l'indépendance.
Merci.
Voilà, on vous amène la partie française, auteur de cet engagement des vacances, malgré la guerre, malgré l'occupation, malgré cette colonisation qui a fait tant de bienfaits en traçant des frontières toutes droites dans des endroits où les peuples se trouvaient coupés en deux. Voilà. Alors, Christian Manguet, comment ça s'est venu, cet engagement-là, sur cette cause-là?
Mais disons que cet engagement-là, déjà au niveau de notre comité entreprise, alors moi je fais partie d'EDF et GDF, donc avec la CMCS Gironde, qui est la Caisse Mutuelle et d'Activités Sociales des Électriciens et Gaziers, nous participions une fois, on était sur notre festival, c'était les Nuits Atypiques, et là, une association est venue nous voir tout simplement, parce qu'elle avait quelques petits soucis pour justement offrir des activités à des jeunes qui étaient là depuis déjà une semaine. Donc comme on avait un stand et que sur Bordeaux on a créé un inter-CE, et dans cet inter-CE là, il y a donc la CMCAS, il y a la SNCF, on a la Caisse des dépôts et on a également le CE de la Conex. Donc on était là justement pour présenter et puis dire aux salariés qu'il fallait effectivement pour nos activités qu'il fallait s'unir, qu'il y avait des propositions aussi à faire. Et là-dessus, sont arrivés, donc, on a découvert donc, ces enfants-là qui arrivaient du Sahara occidental. Alors, moi le premier d'ailleurs, il y a 5 ans de ça, le Sahara occidental, c'était très loin. Quoi, hein, j'avais pas de, je ne connaissais pas trop l'histoire, on en avait entendu parler, mais je ne connaissais pas cette histoire-là. Et j'ai découvert aussi au travers de Régine, qui est la présidente donc de la RASD, les Amis de la République arabe sahraoui démocratique. Justement, elle m'a fait un petit cours d'histoire. Quoi, hein. Elle nous a raconté un peu comment ça se passait. Et en plus de ça, vous l'avez vu tout à l'heure avec les enfants qui chantaient, ce sont des enfants qui débordent de vie, qui sont heureux. Alors ils sont heureux d'être ici, mais ils sont aussi heureux de rentrer chez eux, parce que, voilà quoi. Hein. Sauf qu'ils ne demandent qu'une chose, c'est de retrouver leur terre, alors pas natale, parce qu'ils ne l'ont pas connue, même leur père d'ailleurs ne l'ont pas encore connue, et parce que ça fait déjà 32 ans que ça dure. Donc il y a déjà presque deux générations qui sont passées. Et donc voilà, donc ils sont venus nous dire de les soutenir dans leur lutte, de manière à ce qu'ils puissent un jour retrouver leur territoire. Donc nous, on est là depuis 5 ans. On les reçoit 2 mois dans l'année, juillet et août. On leur propose donc des activités. Et on a essayé de mettre en place cette année, justement, pour... il fait soif ici, hein. Voilà, donc on a mis aussi en place cette année donc, pour faire connaître encore, pour élargir justement cette histoire-là, en place les familles d'accueil. Donc on est quand même assez satisfait dans l'ensemble parce qu'il y a 21 familles dans le cadre de l'inter-CE. Alors je sais, c'est pas énorme, mais c'est déjà un début et j'espère que ça fera boule de neige parce qu'on va continuer. Parce que déjà d'autres CE que l'inter-CE nous ont aussi interpellés. et même d'ailleurs de départements proches. Donc voilà, alors j'espère que cette initiative-là fera boule de neige. Et bon, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais passer là.
D'abord, un mot là. Vous parlez de lutte, et en même temps, les mômes, on les sent heureux. C'est-à-dire que vous avez intégré le bonheur des enfants tout de suite dans la lutte. C'est ce que disait Saint-Just pendant la Révolution française. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Vous, vous faites ça, c'est aussi une idée neuve, le bonheur en Afrique. Le bonheur. Pour un militant des comités d'entreprise, moi, je trouve que c'est bien.
Eh bien, voilà. Eh bien, effectivement, quand on lutte, eh bien, c'est aussi une joie de lutter. Et surtout, quand on arrive à déboucher sur... c'est toute une réussite qui est là. Donc, eh bien, restons heureux, continuons à lutter. Et puis, voilà. Quoi.
À vous.
Bravo. Marie-Thérèse Marchand. Eh bien, je suis responsable d'un projet chez les Sahraouis. Celui de la formation des femmes pour l'animation des enfants dans les campements. Alors, comment ça s'est déclenché? Je suis issue du mouvement des scouts et guides de France, mouvement de scoutisme catholique. Nous avons toujours été un petit peu ouverts aux causes difficiles et africaines. Et moi, particulièrement, très attentive à tout ce qui s'est passé dans le Maghreb. Et pour y avoir fait un certain nombre de formations, j'ai trouvé que faire de la formation des femmes, des mamans de ces enfants, hein, ou de plus jeunes filles, c'était nécessaire et c'était une chance pour moi, de même que pour toute l'équipe qui part avec moi. Nous partons deux fois par an. Deux fois par an, pendant trois semaines, un mois, vivre la condition du refuge. Je peux vous assurer que nous qui sommes des gens libres, eh bien, au bout de trois jours, c'est une condition qui nous pèse. Au bout de plus de trois jours, la condition nous pèse encore un peu plus, mais nous la partageons très fortement avec la population. Nous vivons chez l'habitant, nous vivons au rythme des familles et nous partons le matin faire ces stages. Chaque stage regroupe à environ une quarantaine de femmes. On pourrait les comparer, ces stages, à ce que vous connaissez plus facilement, c'est-à-dire les BAFA, brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur. Vous ajoutez Sahraoui derrière. N'imaginez surtout pas qu'il s'agit d'un copier-coller. On ne peut pas faire un copier-coller d'une formation française quand on s'adresse à des femmes réfugiées dans les conditions que nous savons dans un désert qui est des plus arides et aux conditions climatiques et de vie qu'on a du mal à imaginer. Alors, voilà, ça fait... Comment nous sommes partis, comment nous nous sommes engagés. Alors, c'est d'abord une vieille histoire d'il y a une dizaine d'années, un peu dans le fil du travail de Régine. Nos responsables à l'échelon national avaient été tentés par l'expérience. Donc, nous avions déjà accueilli des enfants il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a 7 ans, Khadija Hemdi, qui est la femme du président Abdelaziz, était venue dans un de nos camps nationaux de guides, de femmes, de filles, et avait dit « Oh là, mais la formation de ces jeunes filles, ça a l'air d'être intéressant. Et puis l'animation des enfants que vous faites, ça a l'air d'être pas mal du tout. Mais pourquoi vous ne venez pas dans les campements de réfugiés ?» C'était en septembre. Je commençais le premier stage avec, cette année-là, 120 jeunes femmes dès le mois de février. Depuis ce temps-là, eh bien, ça n'a pas arrêté. Aujourd'hui, la proportion de femmes formées est environ du 300. Et nous imaginons qu'actuellement, dans nos calculs, sont animés 6600 enfants par semaine dans les 5 camps de réfugiés. Nous nous sommes donné encore 2 à 3 ans pour faire que la formation des formateurs que nous avons commencé puisse prendre le relais. Voilà.
Donc vous engagez, c'est aussi arriver jusqu'à ce que ça soit d'autres qui s'engagent à votre place.
Bah, écoutez, d'abord, j'ai quelques cheveux blancs, mais même si je pars avec des équipes beaucoup plus jeunes, d'une quarantaine d'années parce que, ou 35 ans, parce qu'on ne peut pas partir à 18 ans à faire de la formation dans des conditions qui sont celles-là. Mais je pense que si nous voulons faire un travail utile, c'est vrai qu'il faut absolument qu'il y ait une équipe de formateurs. On en a à peu près actuellement une dizaine qui sont en stage et qui travaillent avec nous. Ce n'est pas simple, hein. Ils parlent assagna et nous, nous parlons français. Entre les deux, eh bien, nous avons Mbarek qui est là et qui est notre traducteur, un des traducteurs. Merci encore, Mbarek. Et puis Mahmoud et puis d'autres. Voilà.
Merci. Régine, tu es... Olivier d'abord. Olivier Périlla, alors lui, c'est une figure du zeste, Olivier, puisqu'il a, il a beaucoup contribué à ce festival. C'est une figure sahraoui aussi, si j'ai bien compris. Olivier est plasticien. Il a beaucoup travaillé à UZEST en tant que stagiaire, puis permanent, salarié d'UZEST. Et il a monté beaucoup de projets sur ce festival. Il est, c'est une part du festival. Il s'est beaucoup engagé là-dedans. Et puis, tout d'un coup, on l'a vu revenir avec les Sahraouis. Bon, et on s'est dit, c'est Olivier, ça. C'est encore une idée d'Olivier.
Ben oui, c'est aussi grâce au festival que j'ai rencontré Régine, ici en tout cas. Et donc, les ramifications ont pu se faire. Et grâce au festival, qu'il y a des enfants sahraouis à Sor cette année. Alors, ben moi, je suis engagé par l'Inter-CE et pour suivre les mômes pendant leur accueil en France avec un accompagnateur sahraoui qui est Mbarek cette année. Et je suis un petit militant de l'association que dirige Régine, une association qui, est, qui a besoin de militants, pas faire de la rotape, mais en tout cas qui est la principale association d'aide et de soutien et de mobilisation sur la question sahraoui en France, parce que c'est un peuple oublié, comme ça a été dit tout à l'heure. Un des derniers conflits de décolonisation en Afrique qui n'a pas été réglé, qui ne passe plus à la télé. Donc, il n'y a plus la guerre, il y a juste la vie dans les camps pour ces enfants qui, malgré tout, ne portent pas la misère sur eux, en tout cas. Moi, ça m'apporte beaucoup. Bon, j'ai des centaines d'anecdotes. Rien que prendre les escaliers roulants avec eux, c'est un manège. Enfin, pour ceux qui ont 8 ans, parce qu'eux, ils ont déjà voyagé. Donc, mais les petits qui ont 8 ans, ou prendre le pont d'Aquitaine avec la pluie, c'est pas mal aussi. Ils se mettent à chanter dans le camion. Et... Mais bon, plus sérieusement, c'est une cause à laquelle il faut s'intéresser, parce que c'est un peu oublié, comme il y en a d'autres sur Terre, bien sûr, les Kurdes et les Palestiniens aussi, à leur manière, mais... et qui est victime d'intérêts géopolitiques et financiers de plus en plus présents, quoi. Et dans laquelle la France a une grande carte à jouer, parce que la France est clairement derrière le Maroc. Donc nous, on est assimilé à la politique française, quoi. On est sarkozyste, quoi. Ou ex-chiraquien, quoi. Et Chirac, maintenant, il va finir ses vieux jours au Maroc, hein. Et derrière, il y a beaucoup de pognon, quoi.
Merci. Alors, vous avez vu l'engagement d'Olivier, ça s'est fait par Régine, qui a une maison à UZEST. Donc, Régine, aussi, c'est le festival avec toute sa famille. Méfiez-vous de votre voisin. Question d'engagement. Votre voisin, il est en réseau, lui aussi. Méfiez-vous de à qui vous parlez ici. Faites gaffe, ça peut vous amener loin. C'est ça l'engagement, c'est parler déjà à son voisin. Et peut-être qu'il va vous tirer quelquefois au bout du monde, quelquefois il va juste vous dire que, ouais, il y a les Sahraouis, mais le voisin de la maison d'à côté, justement, il n'est vraiment pas bien. Je veux dire que c'est ça aussi le réseau. Régine, c'est qui les voisins de Régine ?
Mes voisins, c'est d'abord les Sahraouis, parce que ça fait quand même, ça fait beaucoup, beaucoup d'années que je chemine à leur côté. Et qu'ils ont fait partie de mon histoire et de l'histoire presque de ma famille aussi. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'Olivier a bien préparé le terrain, c'est-à-dire Quand on parle des enfants, on pense rester dans l'humanitaire, mais je crois que l'accueil des enfants sahraouis, ils le comprennent sans être instrumentalisés. L'accueil des enfants sahraouis en France n'est utile, bien sûr, pour eux, mais est d'abord utile pour faire exister les sahraouis, peuple oublié, comme disait Olivier, pour faire exister les sahraouis en France. Et je crois que cet engagement, il est subtil, il est difficile, mais il est rassembleur, parce qu'à la fois, il est très politique, mais en même temps, il est capable de culture, d'humanitaire, d'humanisme à travers les actions qu'on mène et à travers en particulier la présence de ces enfants depuis 25 ans en France, revenus chaque été. Et c'est vrai qu'on arrive par voisinage, par réseau, à quelquefois étendre, mais on n'arrive pas à dépasser plus de 100, 120 en France, enfin, d'enfants accueillis en France. Mais ce qui est subtil, si vous voulez, ce qui est important, et ce qui rejoint le débat de tout à l'heure sur la gauche et sur l'engagement et sur le changement des mentalités que la copine là, du GFN évoquait tout à l'heure, c'est qu'à travers des engagements qui peuvent paraître minuscules, tout petits, de s'occuper d'enfants, de faire un panneau, de distribuer un tract, etc., etc., on arrive à conscientiser, on arrive à politiser un débat qui n'est que politique. Et c'est effectivement la France, ancienne puissance coloniale du Maghreb, qui n'est pas puissance coloniale puisque c'est le Sahara espagnol, mais qui malgré tout continue à jouer le grand jeu au Maghreb avec les Américains et qui, en soutenant depuis 30 ans le Maroc, eh bien, en partie empêche que s'applique l'autodétermination du peuple sahraoui. Et ce que je voudrais également souligner à travers la gaieté et l'espèce de joie de vivre des enfants, c'est qu'effectivement on ressent ça aussi dans les campements, malgré la misère, malgré la difficulté, malgré ce qu'ils évoquaient des tempêtes de sable ou de l'aridité de ces camps, les gens y restent avec une vie civile joyeuse, une vie de mariage, une vie également qui essaye de sauver l'essentiel. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que vous alliez, en même temps que vous allez admirer les sculptures et les peintures de Martin et des copains de tout le secteur là, qui ont exposé dans la halle communale, regardez sur votre gauche. Jackie, mon mari, ma compagnon, avait dessiné, il y a une vingtaine d'années, des dizaines de figures de disparus. Hein, ces disparus des années de plomb d'Hassan II, qui ont disparu depuis 1976. Ils étaient 1000. 500 ne sont jamais revenus. Donc ça veut dire que 500 familles dans les camps au Sahara occidental ne savent toujours pas ce que sont devenus leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs pères, leurs cousins. Et donc ces trois portraits qu'on a dessinés en 91, au moment où Serfati sortait également de prison et qu'on a montré au Trocadéro, place des droits de l'homme, on a souhaité les ressortir. Et c'est un bel hommage aux Sahraouis et à Uzest que de ressortir ces disparus qui sont également un signe, si vous voulez, vers les Sahraouis qui habitent le Sahara occidental. Dans la chanson tout à l'heure, les enfants ont évoqué une personne qui s'appelle Aminatou Edar, qui a disparu 3 ans, de 87 à 91. Et actuellement, on en parle moins que l'intifada palestinienne, parce que sans doute elle est moins spectaculaire, elle est moins terrible, elle est moins... Mais les Sahraouis vont en prison, les Sahraouis manifestent, et les Sahraouis, aujourd'hui, je crois, au Sahara occidental, eh bien, vont pousser à la solution, vont pousser à ce qu'enfin le Maroc reconnaisse que ce peuple n'est pas marocain, mais qu'il a droit à la liberté et à son indépendance. Merci.
Merci, Régine. Alors, quand même, vous savez, je vais dire des grossièretés. Pas de risque de monter une centrale nucléaire à l'endroit d'où viennent ces enfants. C'est de l'humanitaire pur sucre. Ce n'est pas ce qu'appelle Bernard Doré, très justement, dans son bouquin, de l'inhumanitaire destiné à vendre des armes ou du matériel pour une puissance néocolonisatrice. Il s'agit bien d'échanger des liens de dignité et de bonheur. On n'est pas dans l'inhumanitaire, on est dans une autre forme d'humanitaire qui est révolutionnaire parce qu'elle est simple. Enfin, des enfants, des gens, des êtres humains ont le droit de vivre en dehors de camps de réfugiés, à l'endroit où ils habitent, à l'endroit où ils devraient habiter. Ça, c'est quand même quelque chose. Merci à toute l'équipe et d'avoir quitté la Cano Océan. Quand même, Alain Delmas, l'engagement par rapport à ça, il faut aller si loin pour s'engager, à ton avis ?
Mais déjà, je pense qu'à Uzest, on est en plein engagement. c'est bien aussi, on sent bien depuis hier, mais depuis des années, que ce contexte à usage musical sur les enjeux du rapport de l'art à la société, etc., sont aussi vecteurs d'engagement. Donc, l'idée de cette rencontre ce soir, c'est aussi de revenir un peu sur ce qu'on a vu depuis hier. Je vous rappelle le film de Marcel Trias hier soir, le film de Xavier Pajot, que j'ai vu tout à l'heure, qui pose ces questions de l'engagement. Les engagements, ils sont divers et variés, multiformes. Et je pense qu'on a besoin d'échanger un peu aujourd'hui sur comment, nous, quelle conception on a de l'engagement, quelles limites on y perçoit. La question de l'engagement individuel, de l'engagement collectif. Comment ressentons-nous l'efficacité de l'engagement ? Parce que ce qui est posé derrière, qu'on a bien vu à la fin, lors du débat après le film de Marcel, c'est l'idée, c'est dur, on n'y arrivera pas. Donc se pose la question de l'efficacité. Bon, moi, ce que j'aimerais... Alors, les engagements, il y a les engagements artistiques, il y a les engagements politiques. Tout à l'heure, on a eu un débat avec Bernard. Il y a les engagements syndicaux, les engagements dans les associations. Je crois qu'on a besoin de disséquer un peu ces questions-là. Tout le monde parle aujourd'hui de désengagement aussi. Pourquoi ? Ça veut dire quoi, le désengagement ? Donc il y a des problématiques que chacun d'entre nous a intérêt, en tant qu'individu, à poser, mais qu'on a besoin de se poser collectivement dans les organisations, les associations, les partis politiques, dans le milieu artistique, de la création, etc. On a besoin de se poser ces questions-là, non pas pour être toujours en questionnement, mais pour se filer des points de repère, des points d'appui, pour construire ensemble les façons de faire différemment, pour peser, parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, quand même, c'est l'idée de ne pas se laisser faire. On est là aujourd'hui pour ne pas se laisser faire. Quand demain on va rentrer dans nos entreprises ou quand on va rentrer dans nos quartiers, quand on est à la retraite, etc. L'idée de tout ce qui s'est passé dans la dernière période qui est revenu tout à l'heure avec ces présidentielles, avec ce populisme qui est en train de, par tous les ports insidieux, de faire son cheminement et qui est souvent d'ailleurs, je ne sais pas, dans la dernière période, vous avez souvent entendu dire c'est pas possible, il faut que ça pète, il ne faut pas laisser faire, Sarko, machin. D'accord, comment on va construire ces rapports de force ? Donc comment ça nous convoque individuellement ? Moi, je discute quelquefois avec des jeunes. Le film de Xavier, cet après-midi, il revenait sur ces questions-là. On a envie de faire des choses, mais on ne s'y retrouve pas forcément. Ces trucs de vieux, machin, etc. Donc voilà, moi, j'aimerais qu'on... Alors, tout au long, là, on va rester une heure et demie ensemble, à peu près. Et il y aura des interventions d'artistes qui, à leur façon... à la fois diront par la parole quand ils le souhaitent, mais aussi de façon artistique, expliqueront leur engagement. Donc c'est un peu à ça qu'on va essayer de jouer cet après-midi. Et puis on peut commencer déjà à échanger, y compris à partir des problématiques ou des interrogations que les films que vous avez vus hier soir et cet après-midi ont pu faire germer dans vos esprits.
Et vous, la dernière fois que vous vous êtes pas laissé faire, c'était quand ? Elle a dit « oh, oh, oh ».
Je ne sais plus.
Elle ne sait plus. On devrait toujours se souvenir de la dernière fois où on ne s'est pas laissé faire. Parce que c'est juste l'avant-dernière fois où on ne va pas se laisser faire pour le prochain coup. Oui, vous êtes d'accord avec moi. Et c'était quand la dernière fois ?
Oh, je pense que c'est les grandes grèves pour les retraites.
Ou alors je suis sûr que vous n'êtes pas laissé faire par votre voisine quand elle vous a dit qu'il fallait voter autrement que ce que vous vouliez depuis.
J'ai eu du mal à savoir pour qui j'allais voter.
Oui, mais quand même, vous n'êtes pas laissé faire.
Je ne me suis pas laissé faire.
Vous êtes allé voter ?
Je suis allé voter.
Et puis vous continuerez à faire des choses ?
Je continuerai à me battre, oui, parce que je pense qu'il y en a besoin.
Il faut se méfier de ses voisins, c'est des combatifs. Alors, vous, ça vous revient la dernière fois que vous n'êtes pas laissé faire ? C'est pas ce matin, on a fait un atelier d'écriture ensemble, vous avez fait tout ce que j'ai voulu, je vous ai dit pousser le rouleau, vous êtes allé même plus loin.
Mais oui, mais c'était plaisant.
Voilà, c'était plaisant. Et si on avait écrit n'importe quoi ?
Ben, vous n'avez pas écrit n'importe quoi.
Oui, mais si j'avais écrit n'importe quoi.
Mais vous ne l'avez pas fait.
Oh, mais elle ne se laisse pas faire. Hein. Ce n'est pas la peine de revenir en arrière, c'est tout de suite. Et vous ?
Ah, moi non plus, c'est dur. Hein.
C'est vrai, c'est dur ?
Oui.
Vous voyez, elle ne se laisse pas faire par le micro qui passe là. Elle commence à dire ça, c'est secret. On a bien le droit de dire qu'après tout, c'est difficile, le moment où on ne se laisse pas faire. Hein. Mais... Vous avez parlé des grandes grèves. Moi aussi, ma dernière grande grève, c'était juste l'année où je suis parti en retraite. Les deux derniers mois, j'étais enseignant là, pour les grèves, pour les retraites. Et les jeunes me disaient, mais pourquoi tu fais grève? Tu t'en vas au mois de juillet. Pourquoi tu fais grève? Je ne me suis pas laissé faire. Mais depuis ce moment-là que je suis à la retraite, c'est tous les jours que je ne me laisse pas faire. Vous comprenez? Le matin, je me lève. J'aurais tendance à ne pas me laisser faire. Le soir, je réfléchis. Il y a des moments où je ne devrais pas, quand même. Et vous, quand c'est que vous n'êtes pas laissé faire?
Ah, c'est au dernier vote, effectivement. Le vote utile, j'ai refusé.
Voilà.
Voilà, donc c'était un combat, parce qu'avec les copains, effectivement, il y avait beaucoup d'influence. Mais c'était de dire non, ça a marché une fois, pas une deuxième fois. Donc j'ai résisté au premier tour. Et au deuxième tour, effectivement, là, j'ai fait le vote gauche plaisance.
Voilà, il y en a qui, au deuxième tour, ont voté en conscience. Ça les a mis parfois en débat. Bon, eh ben maintenant, il y en a qui veulent intervenir, là?
Je...
Sur leur engagement? Des artistes?
Je voudrais intervenir.
À vous.
Je me laisse rarement faire, je dois le confesser. Mais il y a des dates qui marquent et qui restent dans les esprits. Je me souviens de ne pas m'être laissé faire devant mon poste de télé le 12 septembre 2001, quand on a voulu me faire croire que j'étais un citoyen américain. Si depuis le 11 septembre 2001, je suis un citoyen américain, dis-toi que depuis le 17 octobre 61, je suis un Français algérien. Par conséquent, depuis le 6 août 45, je suis japonais, évidemment. Depuis la Shoah, je suis de confession juive. Après les massacres de Sabra et Shatila, je suis devenu arabe de Palestine. Cela fait maintenant plus de 50 ans que je suis tibétain. À un moment, j'étais roumain. Avant, en 65, j'étais vietnamien. Allons, soyons démagogues. 3 minutes de silence pour toutes les victimes du World Trade Center et 10 années de recueillement pour tous les morts et les pleurs occasionnés par le colonialisme, l'impérialisme, le fascisme et autres saloperies.
Monisme.
Si vendre des armes au Rwanda n'est pas du terrorisme, si vendre des armes à Israël n'est pas du terrorisme, c'est que l'Occident a du mal à nettoyer au fond de son slip. Allons, ne faisons pas la fine W. Bush. Il existe aujourd'hui des missiles qui ne touchent que les méchants intégristes et pas leurs gentils voisins civils. C'est une tempête du désert de votre liberté immuable. Cette guerre est immorale. Ils ne veulent plus d'arabes dans les avions. Plus aucune bouteille de gaz par la même occasion. L'ennemi est invisible. Il est nulle part, il est partout. Nous sommes victimes. Il se rend coupable de tout. La couche d'ozone, c'est lui, mesdames et messieurs. L'assassinat du chien de la voisine du ministre qui vivait à Paris, c'est encore lui. Si tous les musulmans sont des intégristes, alors, tous les dignitaires du clergé sont pédophiles. Si tous les dignitaires du clergé sont pédophiles, les bombardements en Afghanistan étaient plus qu'utiles, mais quand on va bombarder le Vatican, le monde chrétien va se faire de la pile. Assez de ces inepties. Ici, le chaos est tant cérébral que total. Ça veut dire au final qu'on a bien fait de s'armer l'esprit pour pouvoir répondre aux vandales, aux maîtres de la désinformation multilatérale. C'est une forme de terreur moderne. Tu flippes devant ta radio, ta télé ou tu flippes devant ton modem, mais la réalité demeure, nous plonge dans de multiples dilemmes. Même si leur argent n'a pas d'odeur, on voit bien que l'on saigne. Que tu protèges ton littoral en Bretagne, à Bastia, au Mururoa. Que tu sois un civil pris pour cible à Bagdad, New York, Hiroshima ou Ramallah. La terreur qu'on t'impose n'a pas de nom qu'on donne là. De par mon slam, je la condamne ici et là, ici et là, ici et là, ici et là,
ici et là.
Did Kabal. Voilà, c'est ici maintenant, nouvelle intervention artistique. Voilà, l'engagement. Engagement de la poésie depuis 30 ans à Uzès Musical. Voilà, on a eu la présence de nombreuses années de Bernard Manciette, entre autres, le voisin de Trinsac, ici, qui venait souvent au festival. Là, voilà, avec Juliette Clapla, on a voulu rendre hommage aussi à l'engagement par la poésie et donc par les mots de René Char, l'engagé René Char, le résistant René Char. Et aussi une phrase qu'on répète souvent ici à Uzès Musical que René Char a écrit. Le poète doit laisser des traces et non des preuves. Seules les traces sont belles. Et c'est un peu tout ce qu'on travaille depuis longtemps sans s'en rendre compte à Uzest. Voilà, donc un petit voyage de 20 minutes. Merci pour lui. Voilà, et à tout de suite.
Il ne faut pas avoir peur du bonheur. Hein. C'est seulement un bon moment à passer. Il faut toujours connaître les limites du possible, pas pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions. L'humanité n'est plus une légende, elle est un mythe. Dans le lit qu'on m'avait préparé, il y avait un animal sanguinolent et meurtri de la taille d'une brioche. Un tuyau de plomb, une rafale de vent, un coquillage glacé, une cartouche tirée, deux doigts d'un gant, une tache d'huile. Il n'y avait pas de porte de prison, il y avait le goût de l'amertume, un diamant de vitrier, un cheveu, un jour, une chaise cassée, un verre à soie, l'objet volé. La bêtise aime à gouverner, lui arracher ses chances. Nous débuterons en ouvrant le feu sur ces villages du bon sens. Par la vertu de la vie obstinée, dans la boucle du temps artiste, entre la mort et la beauté. La beauté naît du dialogue, de la rupture du silence et du regain de ce silence. Cette pierre qui t'appelle dans son passé est libre. Cela se lit aux lignes de sa bouche. Devant vous, le champ de 10 hectares dont je suis le laboureur, le sang secret et la pierre catastrophique. Je ne vous laisse rien à penser. Pensez-vous davantage? Chut. l'amour réalisé, du désir demeuré. Désir. Poète. Le poète a ses têtes. À chaque effondrement d'épreuve, le poète répond par une salve d'avenir. Un poète doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. La poésie qui va nue. Sur ses pieds de cailloux, sur ses pieds de roseaux, ne se laisse réduire nulle part, nulle part. Je n'écrirai pas de poème d'acquiescement. Penchez-vous, penchez-vous. Penchez-vous davantage. Il ne dépend que de la nécessité et de votre volonté qui me crédite. J'ai ou non le visage de l'échange. La canicule des preuves. J'ai voyagé jusqu'à l'épuisement, le front sur le séchoir noué. Afin que le mal demeure sans relève, j'ai étouffé ses engagements, j'ai effacé son chiffre de la gaucherie de mon étrave, j'ai répliqué au coup. On tuait de si près que le monde s'est voulu meilleur. Il faut bon coup nous aimer cette fois encore, respirer plus fort que le poumon du bourreau. Je vois l'homme perdu de perversion politique, confondant action et expiation, nommant conquête son anéantissement. Je redoute l'échauffement tout autant que la chlorose des années qui suivront la guerre. Je pressens que l'unanimité est confortable. La boulimie de justice n'auront qu'une durée éphémère. Aussitôt retirer le lien qui noue notre combat. Ici, on se prépare à revendiquer l'abstrait. Là, on refoule en aveugle tout ce qui est susceptible d'atténuer la cruauté de la condition humaine et lui permettre d'accéder à l'avenir d'un pas confiant. D'un pas confiant. Le mal, partout déjà, est en lutte avec son remède. Les fantômes multiplient les conseils. Des fantômes dont l'âme empirique est un amas de glaire et de névrose. Cette pluie qui pénètre l'homme jusqu'à l'os, c'est l'espérance d'agression, l'écoute du mépris. On se précipitera dans l'oubli. On renoncera à mettre au rebut, à trancher et à guérir. On supposera que les morts inhumés ont des noix dans leur poche et que l'arbre un jour, fortuitement, surgira. Cette guerre se prolongera au-delà des armistices platoniques. L'implantation des concepts politiques se poursuivra contradictoirement dans les convulsions et sous le couvert d'une hypocrisie sûre de ses droits. Ne souriez pas. Écartez le scepticisme et la résignation et préparez votre âme mortelle en vue d'affronter intramuros la violence qui limitait mon ascendant. J'ai pris sans éclat le poignet de l'équinoxe. L'oracle ne me vassalise plus, j'entre. J'éprouve non la grâce. La menace s'est polie. La plage qui chaque hiver s'encombrait de régressives légendes de Sibylle aux bras lourds d'ortie se prépare aux êtres à secourir. Je sais que la conscience qui se risque n'a rien à redouter de la plane. Chapelet de cicatrices, aigrelette buissonnée. Je n'ai pas été capable de faire ce monde impossible. Que puis-je réclamer? Je rêve d'un pays festonné, bienveillant.
irritée soudain par les travaux des sages en même temps qu'émue par le zèle de quelques dieux aux abords des femmes. Aquí me siento quieta con las manos sobre los ojos quieta muda y secreta pasiva como los espejos aquí me siento quieta passiva comme aux espèges monde au bleu regard te voici lavé rêvant l'avenir et quelles miroitantes oreilles mosa sina mio canto immanenti latente et que le vide des vagues tu subito falar que me fogi de repente moza sina meu canto e manante latente que vida devagar oh tu subito falar que me fogi s'alimente de poésie. Au retour, il sera demandé à ces hauts voyageurs de bien vouloir se souvenir.
Juliette Capla et Fabrice Vira. Merci.
Merci.
Donc, comme souvent, en tout cas à mon goût, je pense que la poésie avertit. Voilà, il y a beaucoup des phrases. Enfin, Juliette, peut-être tu peux plus en parler. Je sais que Michel Bucom doit nous interroger, mais peut-être qu'on va le faire nous-mêmes.
Oui, alors avouez.
Alors, on avoue que.
Pourquoi René Char ?
J'étais en train de le dire. Alors. Non,
c'est pas parce que c'est le centenaire de sa naissance.
Comme c'est souvent le poète avertit, et surtout, il y a beaucoup de phrases, dis-moi si je me trompe, mais qui sont sorties des feuillets d'hypnose.
Oui, en fait, donc pourquoi René Char ? Oui, parce que René Char est un poète fascinant, enfin passionnant, parce qu'il a une poésie d'un lyrisme limite insoutenable. Voilà, c'est un poète moi qui m'accompagne comme lectrice depuis longtemps, que je ne pensais pas oser un jour me permettre d'essayer d'en faire quelque chose, une interprétation, disons. Et il se trouve que c'est le centenaire de sa naissance, je dis en manière de blague, mais en fait on s'en fout un peu. C'est surtout que beaucoup de ses phrases, de ses poèmes, hein, font écho à des choses notamment qui se passent ici, mais qui se passent ailleurs également. Et voilà quoi. Et on a dû en épurer beaucoup, parce que si vous vous plongez dans René Char, c'est vraiment truffé de perles. Donc je vous y invite. Si
et donc, je conseille donc, les feuillets d'hypnose.
Oui, voilà. Feuillets d'hypnose, c'est les... En fait, René Char était poète. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été résistant dans le maquis du Vercors, je crois. Non, pas dans le Vercors. Enfin bon, peu importe, dans le Sud-Est. Et il était, on l'appelait le capitaine Alexandre, il était un résistant très, très important. Et il a continué à écrire malgré son dégoût, dont il parle dans certains textes pendant cette période. Et ça a été publié longtemps après, voilà, sous le nom des Les Feuillets d'Hypnose. Et ce sont des petites, des fragments de textes très courts qui commentent à la fois sa vie au jour le jour en tant que résistant, avec ce que ça implique évidemment d'une dureté qu'ici, aujourd'hui, je crois qu'on a quand même du mal à imaginer. Et en même temps, des pensées beaucoup plus respirantes et libératrices, quoi.
Toi, Michel,
les armes à la main, il a été résistant. Il y a ceux qui se sont battus avec l'écriture, il fallait le faire. Il y a ceux aussi qui se sont battus avec l'écriture comme lui, avec les armes. Il a tué René Char.
Oui, il a tué. Quelque chose de terrible. Il a revendiqué d'ailleurs de ne pas, enfin, il a souhaité, je le disais, enfin, j'y faisais allusion, ne pas écrire pendant cette période, du moins ne pas publier, ne pas faire connaître ses écrits pendant cette période, parce que ça lui semblait indécent. Ça se discute, mais d'écrire pendant ces moments-là, quoi.
Et alors, Fabrice, toi, tu as sauté dans des instruments nouveaux. Avec un rapport, par moments, on a l'impression que ton engagement rejoint l'engagement de Juliette, mais aussi l'engagement de René Char, parce qu'on a l'impression que très souvent, dans les poèmes de René Char, il y a quelque chose de corporel. C'est la chasse avec la trace, seules les traces font rêver. C'est un rapport à une nature dans laquelle l'homme est engagé. René Char est engagé, mais son écriture est engagée, et toi, on te voyait sur la table engagé avec une sorte de prolongement technique qui passait par ta bouche, par un micro, par un système d'appareillage et tout un travail de son qui nous était renvoyé par la technique. Ils sont là, c'est des champions. Mais quand même, y a quelque chose d'engagement. Qu'est-ce que c'est cet engagement des musiciens qui inventent des choses neuves, là?
Ah, c'est dur à répondre, là.
Ouais, bah.
Je savais bien que tu allais me la faire. L'engagement... en fait, ces machines-là ouvrent de nouveaux espaces pour quand je chante. Je travaille avec cette machine-là, avec d'autres aussi. Ça ouvre de nouveaux espaces. C'est-à-dire que la voix transformée ouvre à de nouveaux mondes. Et de monde en monde, on se recrée à chaque fois un inconnu. Et en fait, à ce moment-là, on se confronte à son ignorance. En fait, on part de son savoir de chant ou de sa proposition chantée. Et la machine, souvent, en transformant avec des trafics comme ça de voix, on transforme complètement la voix. Et donc, ça nous ouvre devant des mondes qu'on n'avait pas l'impression ou qu'on ne pouvait pas prévoir faire avant. Voilà. Et donc, après, à partir de là, se crée quelque chose à chaque fois de nouveau avec lesquels il faut répondre. Donc, on se retrouve dans une position d'improvisation encore plus forte. Et voilà. Et c'est par rapport à ces mondes aussi de l'engagement de la poésie, d'engager sa voix dans cette ignorance-là, alors que souvent on se balise de certitude. Voilà, voilà.
Donc, engagement des musiciens, tu es aussi engagé en étant ici.
Oui.
Tu as été engagé syndicalement, mais vous savez, les intermittents du spectacle, ils ne sont jamais sûrs d'une allée sur d'autres que leur profession continue. Il faut recommencer à zéro avec les contrats et les trucs. Donc, je veux dire... Aujourd'hui, on nous dit que le syndicalisme, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de gens qui s'engagent, il n'y a plus de jeunes qui adhèrent. Alain Delmas, là. Merci.
Première chose, on parle d'engagement en général, enfin l'engagement des artistes, mais à un moment donné, posons-nous, en tout cas moi, ce dont je peux parler un peu mieux, sur les questions de l'engagement syndical. Aujourd'hui, dans la dernière période, tout le monde pleure. Oh, 8% de syndicalistes, c'est une catastrophe. Mais comment ça se fait? Pour quelles raisons? Et puis on nous donne une réponse toute faite, magique. Mais écoutez, dans le cadre des présidentielles, la seule solution, on va rendre obligatoire le syndicalisme. Et vous verrez, ça sera résolu. Donc là on a vraiment besoin d'avoir un échange. La question du syndicalisme, en règle générale, elle est posée, première chose, un sondage récent. Il y a 25 ou 26% des gens qui disent « Nous, on aimerait bien se syndiquer ». Il y a 75% qui disent « On aimerait bien, mais on a trop peur ». On a peur parce que dans les entreprises, on sait très bien que si on se syndique, si on pointe le bout du nez, on va se faire ramasser la gueule. C'est quelque chose qui revient de façon permanente. Donc ça repose la question de nouveaux droits pour les salariés, du respect du fait syndical dans les entreprises, de façon à pouvoir avoir des points d'appui pour résister, pour proposer, pour se donner des perspectives de transformation sociale.
Et ça, ça nous convoque à chacun. L'autre jour, je discutais avec un copain et il me disait, mais qu'est-ce que vous faites, les syndicats? Putain, mais qu'est-ce que vous faites? Et alors, on commence à discuter. J'ai dit, mais attends, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Mais moi, je peux pas. Je suis tout seul, ça sert à rien. Voilà. Donc, posons-nous la question. Chaque intervention individuelle dans un espace collectif, alors après, ça repose d'autres questions. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin, ensemble, y compris dans les organisations syndicales, politiques, de se poser des questions sur le rapport de l'individu au collectif. Parce que c'est ça aussi. Pendant des années, on a privilégié ce rapport collectif en niant ce que disait hier Bernard, l'identité, cette individualité. Et à un moment donné, si on ne prend pas en compte la singularité des personnes pour les mettre dans le pot commun et construire ensemble des perspectives collectives, on n'est pas bien. Donc ça, ça nous renvoie aussi aux... Alors, dernière chose que je dirais sur ces questions-là, il y a eu un rapport au Conseil économique et social cet hiver sur la question du syndicalisme, de la démocratie syndicale, etc. Et elle pose des perspectives de la question de la représentativité syndicale, d'élection pour que tous les salariés dans toutes les entreprises puissent se déterminer et enfin avoir une représentativité syndicale qui soit basée sur le vote des salariés. Aujourd'hui, ce qui gère les règles du syndicalisme, c'est l'irréfragabilité, donc des critères qui ont été, y compris, déterminés après la libération, puis revus dans les années 58-60, dont parmi ces critères, par exemple, l'appartenance des organisations syndicales dans la résistance. Aujourd'hui, on a besoin de regarder de plus près et de revisiter ces critères-là. Et le seul critère, c'est la démocratie. C'est de donner la parole aux salariés pour qu'eux-mêmes déterminent quel type d'organisation syndicale ils souhaitent et comment ils la construisent. Et je finirai là-dessus, parce que ça, c'est le débat. Vous savez, à un moment donné, on peut toujours se... Je vais être provocateur, se cacher derrière l'inefficacité pour ne pas soi-même y aller, quoi. Et donc, ça nous renvoie à notre propre engagement dans le mouvement syndical, en tout cas pour ce qui nous concerne, mais aussi dans d'autres sphères.